Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI. Avec une émission qui revient sur la Ligue des Champions, ce clap de fin de la phase de poule. Une phase de poule qui a gardé du suspense. Il reste 8 places à prendre et 6 ce soir, donc une soirée très animée. Pour Lyon par exemple, les Gones sont à 90 minutes d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Mais cette équipe, aujourd'hui dirigée par Rudy Garcia, nous a tellement habitués à des hauts et des bas que l'on peut y croire ou ne pas y croire. Et nous tenterons de vous exposer les pour et les contre des arguments autour de cette affiche Lyon-Leipzig. Un match à suivre sur RFI grâce à Eric Chorin, envoyé spécial de la rédaction dans le stade de l'OL, au Parc OL, comme d'ailleurs toute cette soirée que vous pourrez suivre ici avec le service des sports. Liverpool, le vainqueur en titre de cette Ligue des Champions, et l'Ajax d'Amsterdam, demi-finaliste l'an dernier, vont aussi tenter de décrocher leur qualification ce soir. Mission plutôt possible en terre autrichienne de Salzbourg pour les Reds, mais face à Valence, pour les jeunes Hollandais, il faudra aussi gagner. Et puis, candidat, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, Naples et tant d'autres prétendants, nous allons vous raconter ça. Nous évoquerons aussi aujourd'hui la Russie privée de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils en avaient pourtant passé le relais à leurs camarades, les Russes, mais la punition envers les athlètes russes pour cause de dopage touche aussi donc les footballeurs, ceux en tout cas qui prétendent à une compétition mondiale, et on vous expliquera la différence entre la Coupe du Monde et l'Euro. Et pour évoquer ces sujets, n'est-ce pas, Bruno Constant ? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
J'espère que vous savez tout sur tout.
Absolument, j'ai révisé.
Mais je compte sur vous. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aussi, pareil, l'homme en noir du jour. Et puis, Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Olivier Pron, bonjour.
Je suis largement à la hauteur de Bruno Constant. Bonjour, bonjour à tous.
On va voir ça. On va se battre. Ouais. On va mettre des mots aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je sens ça, parce qu'il y a déjà des opinions avant même qu'on donne le coup d'envoi. On y va, Radio Foot.
Memphis Depay ! Eh oui ! Memphis Depay vient refroidir la Red Bull Arena ! Oh, Martin Terrier, faut y aller, Martin Terrier ! Martin Terrier ! Eh oui ! Les Lyonnais en reconquête à Leipzig ! Oh là là ! Anthony,
Anthony, qu'est-ce que tu fais ?
C'est pas possible !
Bon ça va pas être possible.
Faut-il y croire encore ou non ?
Bien sûr, c'est possible.
Non, je ne crois pas, non.
Y croire ou ne pas y croire. Alors, mardi 10 décembre, le jour, est devenu le plus important de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Car sur sa pelouse, devant son public, cette équipe des Gones pourra décrocher sa qualification. Ces Gones ont leur destin en main. Curieux cadeau d'ailleurs du hasard, on s'en souvient, à la cinquième journée, c'était grâce au match nul entre Leipzig et Benfica que Lyon, qui devait s'imposer à Saint-Pétersbourg, avait réussi encore à se faufiler. Alors ce soir, si l'équipe de Rudy Garcia gagne au Parc OL, elle sera qualifiée première de son groupe, de quoi être surmotivée. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, et l'entraîneur ne veut pas penser à autre chose.
On connaît la situation, si on gagne on sera premier, et en fait c'est la seule option qu'on veut envisager. On va tout faire devant notre public, et Dieu sait si le public sera important aussi dans un match comme celui-là, parce que c'est aussi à nous de temps en temps de mettre au-delà de l'envie et de la détermination, de la folie un peu dans ce genre de match, il faudra, pour être capable de marquer et de se qualifier, mais il faudra aussi être costaud dans les moments difficiles. Et on aura autant besoin du public quand on sera capable d'enflammer le match, je l'espère. Ce sera aussi une des clés du match, mais aussi quand ce sera difficile et qu'il faudra ne pas laisser cette équipe de Leipzig se montrer dangereuse.
Rudy Garcia au micro de notre envoyé spécial Eric Chorin. Alors les Lyonnais ont l'art de mettre à l'épreuve les nerfs, voire le cœur de leurs supporters. On va d'abord commencer, messieurs, si vous êtes d'accord, par pourquoi y croire à cette qualification. Nabil Djellit, est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà battu Leipzig à l'aller ?
Oui, ils peuvent réussir le hold-up jusqu'au bout, vous avez bien raison, puisqu'à l'aller, on se souvient tous de ce match où il y avait une seule équipe sur le terrain, celle du Red Bull Leipzig, et le meilleur joueur lyonnais d'ailleurs, c'était Werner, l'attaquant du Red Bull Leipzig.
Ironie, hein, puisque Werner joue pour Leipzig, bien sûr.
Qui avait raté des occasions d'une manière assez incroyable.
Je crois que Garcia, s'il avait été sur le banc, il aurait dit « si Werner avait marqué, Leipzig aurait gagné ».
Exactement. Donc,
il avait fait
donc
beaucoup
après,
de poteaux,
ils se retrouvent quand même, voilà, ils ont, comme vous l'avez dit à juste titre en préalable, ils ont leur destin entre leurs mains. On sait que c'est une équipe quand même, qu'on le veuille ou non, même si elle est inconstante, elle a quand même des joueurs, bon, pour certains on peut les considérer aujourd'hui surévalués, mais en tout cas dans un récent passé européen, il y a quand même des joueurs qui étaient sur le terrain la saison dernière face à Manchester City et qui ont battu Manchester City, donc elle a des joueurs qui sont capables de se transcender, de se sublimer dans ce genre voilà, de circonstances, d'événements. Je rappelle quand même que le match est à domicile, vous allez avoir aussi une assise populaire
oui, il en appelle au soutien des.
Maintenant, si vous me demandez réellement mon opinion, moi je suis inquiet. Je veux dire, sur le contenu, j'ai pas vu un changement extraordinaire depuis l'arrivée de Rudy Garcia. J'ai surtout vu un Memphis Depay qui a un niveau stratosphérique, qui
enchaîne, mis en valeur aussi.
Qui enchaîne les exploits, mais. Lyon peut le faire.
Shérif, est-ce que Lyon peut le faire? Lyon peut-être, ce qu'on peut se dire pour cette équipe, et si on pense à d'autres équipes françaises, la comparaison vaut d'autant plus. Ils ont quand même cet ADN en eux de la Ligue des Champions.
Vous me l'enlevez de la bouche.
Ça existe quand même dans ce club, et notamment dans la tête de certains joueurs en plus.
S'il leur reste un peu de cet ADN européen, Lyon va passer
ce soir. C'est ce soir.
Voilà, c'est ça.
C'est ça le test.
C'est toujours ça qui m'a impressionné avec cette équipe de Lyon, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Il y a toujours ce truc qui, même quand il se faisait éliminer, il mourait debout. Il y avait quelque chose qui nous transcendait. Là, je le vois pas du tout. Donc, s'ils le retrouvent ce soir, ils peuvent le retrouver parce que ils ont aussi l'habitude des situations qu'ils savent redresser au dernier moment. Donc, oui, ils jouent chez eux. L'équipe de Leipzig est déjà qualifiée. Donc, il y a peut-être une démobilisation. Ce sera pas non plus l'équipe type qui va jouer ce soir, de cette équipe de Leipzig. Donc voilà, il y a le retour de Depay, il y a Aouar, ils sortent sur un 4-0 à Nîmes, pas du tout convaincant à 11 contre 9, mais bon, ouais. Il y a une mini dynamique.
Une mise en jambe.
Voilà,
disons.
Si il reste encore un peu de cet ADN européen, oui, Lyon va passer ce soir.
Bruno, avant de vous donner la parole, justement, on va écouter l'entraîneur de cette équipe de Leipzig, parce que il y fait allusion, Shérif. C'est vrai que cette équipe, elle est déjà qualifiée.
Enfin, elle joue la première place.
Voilà, elle n'est pas première.
Ah oui, non.
Elle
est qualifiée.
Elle est qualifiée.
Oui. Après, elle est qualifiée. Deuxième, c'est presque un détail aujourd'hui.
Et vous dites qu'elle joue.
Je suis pas d'accord.
Le tirage au sort des huitièmes de finale.
Elle joue la première place.
Mais tomber sur le Real, personne veut. Real va finir deuxième. Personne veut tomber sur le Real.
Et notamment, si elle cherche une première place, elle cherche aussi la première place de Bundesliga. Actuellement, ils sont deuxièmes, à un seul point de Mönchengladbach. On sait que le Bayern est un peu largué derrière. Alors, on va l'écouter. Cet entraîneur qui lui aussi est un peu oui ou non, Julian Nagelsmann.
Je vais vous décevoir, mais on ne va pas prendre ce match à la légère. On veut terminer premier du groupe, on veut gagner contre Lyon. Ce match aura un impact sur les huitièmes de finale. Donc, il a un enjeu pour le club, pour savoir si on jouera le match retour à domicile ou pas. C'est important aussi pour le coefficient UEFA de l'Allemagne. Il y a plein de raisons. Je n'ai pas dit à mes garçons de lâcher ce match. De toute façon, ils ne le font jamais. En plus, on a perdu le match aller. Nous ne l'oublions pas, mais nous avons progressé depuis. Et nous avons comme objectif de battre une fois chaque équipe de notre groupe. C'est donc ce que nous voulons faire contre Lyon.
Bruno Constant, alors une envie de finalement d'effacer le match aller, et cette défaite, un air de revanche, ou alors aussi, eh bien, dans la tête, l'envie de garder des forces pour la Bundesliga?
Je suis pas sûr qu'elle a la revanche dans l'esprit de Nagelsmann. C'est pas le type d'entraîneur qui base son football, son jeu là-dessus. Mais pour reprendre la situation parfaitement dressée par Nabil,
pas comme ma table.
Effectivement, le match aller, je suis pas sûr qu'il rassure les Lyonnais. Bien au contraire, parce qu'on n'est pas sûr de voir Leipzig rater autant d'occasions qu'ils l'ont fait à l'aller. Mais on est à peu près sûr qu'ils vont jouer le même football.
Il y aura des occasions.
Le fait qu'ils jouent à domicile Lyon, pour moi, c'est pas rassurant du tout. Si on regarde depuis 2011, ils ont gagné 3 matchs à domicile en compétition européenne, c'est très faible. C'est famélique. On sait le pédigré de Rudy Garcia en Ligue des Champions, c'est très compliqué
c'est
aussi.
C'est le plus faible de tous les entraîneurs en poste actuellement.
Il y a beaucoup de
raisons. Je vous demandais que les raisons d'y croire, parce qu'on y viendra aux raisons de ne pas y croire, justement.
Je parle des entraîneurs à plus de 20 matchs de Ligue des Champions.
Oui, ouais. Mais les raisons d'y croire, c'est tout simplement parce que ça joue sur un match. Par magie, quelque part, Lyon a encore son destin entre ses mains. Et vu la le parcours des Lyonnais dans cette Ligue des Champions, c'est quand même un petit miracle, parce qu'ils n'ont pas été très très bons. On leur avait promis...
On peut se baser sur la première mi-temps contre le Benfica.
Ouais, mais voilà, ils ont joué se baser sur le dernier quart d'heure 2, la première mi-temps 2. Et... Ils n'ont jamais fait un match de 90 minutes.
Ils ne sont pas contents pour l'adversaire.
C'est même
aujourd'hui,
ils ont qu'ils n'ont pas été constants.
Exactement, merci Nabil de cette précision importante. Et voilà, non, mais c'est, moi je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce que Nabil, tu parlais le fait qu'ils, par le passé, ils ont déjà montré qu'ils sont ici au rendez-vous, notamment Manchester City.
Oui, oui.
Mais les joueurs, en l'occurrence important,
exactement, parti, ouais.
C'est qu'il n'est plus là.
Mais il y a Depay quand même qui
oui.
A
pris le relais. Ouais, c'est quand même important. Et pour en revenir, ce qu'on avait dit, on leur a promis un groupe qui était largement à leur portée. S'il était vraiment largement à leur portée, ça se jouerait pas la dernière journée. Et aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, Leipzig est bien meilleur que Lyon.
Mais parce que Lyon, n'est pas à la hauteur. On a parlé d'un groupe largement à leur portée.
Mais toutes les équipes sont à la hauteur.
Ils ne sont pas à la hauteur depuis le début de saison, les Lyonnais. Cette inconstance permanente, on la retrouve en Ligue 1.
Cette saison,
on essaie de se
rassurer
parce qu'ils ont gagné 4-0 la semaine dernière.
Qu'est-ce qu'ils ont fait les 4 dernières années pour...
Des remontées dans le dernier quart de championnat.
Ils ont gagné Manchester City, un club qui vous est cher.
Ils ont enchaîné que des nuls contre les équipes qui étaient supposées plus faibles.
Ils ont souvent terminé sur le podium quand en Ligue 1, donc
si
pour être en Ligue des Champions.
De Ligue 1, on sait bien qu'on n'est même pas le cinquième championnat européen.
En valeur intrinsèque, quand il y a le tirage au sort, on se dit oui que c'est un groupe qui est à leur portée, et c'est vrai.
À leur portée.
Ouais, ou même au moment du tirage au mois d'août, mais quand on arrive au mois d'octobre, au bout de trois journées, on voit qu'ils y sont pas du tout. On
peut
pas.
Je savais pas qu'on allait se passionner pour un groupe avec le Zénith, le Red Bull Leipzig et ce qui reste de Benfica.
La preuve, c'est que...
C'est ça le charme du football.
C'est pas le Red Bull Leipzig.
La preuve, c'est qu'on a la sixième journée, ils sont toujours pas qualifiés.
Ça n'est pas leur nom officiel.
Dans la poche. Ils peuvent même finir dernier.
Est-ce que le fait qu'il y ait aussi Memphis Depay et Osem Awar ensemble sur le terrain, qui quand même, alors il n'y a plus Fekir, mais est quand même un sacré couple de joueurs sur le terrain, un sacré duo, Nabil, c'est aussi une raison d'espérer.
Ah bah évidemment,
on est dans le positif
quand même,
là.
C'est quand même une... Non, mais je veux dire, il y a quelques individualités qui peuvent être de très haut niveau, si c'est leur soir. Ils peuvent faire la différence face
même
à cette équipe.
Memphis, on l'a vu quand même.
Puis je rappelle qu'on le veuille ou
on
non.
On l'a mis en confiance peut-être aussi.
C'est
le pari de Rudy Garcia.
Tout à fait, qui l'a responsabilisé, qui a fait de lui un capitaine. Et puis, il était absent des grands rendez-vous, Memphis Depay, ces dernières saisons, puisqu'il parlait et puis il agissait pas toujours. Là, on a l'impression que... Moi, j'aime bien Memphis Depay. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas lisse, qui a du caractère. On a l'impression qu'il a franchi quand même un gap. Et ce gap, il l'a franchi notamment grâce à la sélection des Pays-Bas, où il répond présent quand même sur des grosses affiches. Alors certes, l'animation, elle n'est pas la même, mais voilà, vous avez quand même rappelé que moi, je suis plus rassuré de savoir que Depay et Aouar sont sur le terrain que Cornet, par exemple. Même si Cornet, la saison dernière, est fantastique du côté de Manchester City, mais c'est un joueur qui est quand même irrégulier, qui ressemble plus à un remplaçant de gros clubs que d'un titulaire.
Et puis,
de manière tout bête, même si c'est vrai qu'à l'aller, ça avait été assez miraculeux, ils ont quand même inscrit 2 buts en pressant assez haut, en récupérant le ballon et en étant efficace. Donc,
il y a deux erreurs, attention. Il y a pressing et erreur. Il y a les deux.
Oui, mais bon, après, c'est le jeu. Je veux dire, le jeu appelle l'erreur. Sinon, tu marques jamais, quoi. Je veux dire, donc ils ont quand même les qualités pour venir embêter cette équipe allemande. Alors, on verra ce soir qui est aligné. Une équipe qui est quand même jeune défensivement. Alors, je ne sais pas si Upamecano, Konaté jouent ce soir. Mais c'est quand même une équipe qui est jeune, Leipzig.
On rappelle qu'ils peuvent passer aussi même en cas de match nul, suivant le résultat.
Dans l'autre match. Il y a aussi peut-être une motivation, mais là, ça sera plus celle influée par les dirigeants du club, c'est que ça pourrait rapporter une dizaine de millions d'euros tout de suite, cette qualification venant de l'UEFA, et ça, c'est pas à négliger. Une des raisons de ne pas y croire, c'est peut-être, on parlait de l'effectif Nabil, peut-être aussi, on pourrait s'arrêter, Bruno, c'est sur Moussa Dembélé,
qui
est inconstant. On y viendra après.
C'est la fête aujourd'hui, ça.
Qui est inconstant, et je m'en amuse, mais parce qu'on le voyait par exemple au Celtic, c'était un de ceux qui marquait justement. Et là, il n'a pas encore inscrit un seul but cette saison en Ligue des Champions.
Oui, mais parce que j'ai.
Numéro 9.
Oui, moi je trouve aussi parce qu'on l'utilise mal. À un moment donné, quand vous êtes bon sur les centres et qu'il n'y a pas un centre qui arrive sur la tête, c'est quand même compliqué.
Il y a beaucoup de centres, mais qui n'arrivent
pas, je suis
d'accord.
Mais il n'y a pas beaucoup qui arrivent sur la tête. Je pense qu'aussi la montée en puissance de Depay dans un rôle plus axial, quelque part, lui bouffe un peu l'espace à lui. Il se marche un peu sur les pieds.
Ouais.
Et forcément, celui qui a le caractère le plus fort domine pour l'instant, c'est Depay. Mais je pense que Lyon aurait intérêt vraiment à s'appuyer aussi sur Dembélé parce que c'est quand même un excellent joueur. Après, ce qu'on a vu au Celtic aussi, Et moi, je l'avais dit déjà à l'époque, c'est que le Celtic, et notamment le championnat écossais, c'est quand même extrêmement faible. Mm-hmm. C'est non, que non, c'était bien. De la deuxième non, division.
Il s'est fait illustrer contre le Barça.
C'est pas
quand il y avait les matchs de Ligue des Champions.
Dans un Celtic Park, c'est là qu'on l'avait fait tout flamme aussi.
C'est là qu'on le remarquait aussi.
Mais dans une ambiance, une atmosphère qui fait qu'on peut se dépasser.
Ça sera peut-être le jour.
Non, mais il a les qualités. Non, mais Dembélé, c'est un bon joueur. 10 buts en Ligue 1. Vous avez raison de rappeler qu'en Ligue des Champions, il a déjà marqué face à des grosses équipes comme le FC Barcelone. C'est l'attaquant de l'équipe de France. L'attaquant de l'équipe de France espoir, il traverse une crise un peu de confiance sur son statut, puisque avant c'était en fait c'est plus un attaquant de 4-3-3, mais là on lui a, il y a Depay qui est venu un peu bousculer l'ordre des choses. Moi je pense que ce garçon ce soir ça peut être le facteur X du côté de Lyon, et il peut faire des différences certaines.
Non, mais sa position, la façon dont il pèse aussi, ça aide beaucoup Depay. Quand on voit Depay marquer devant, c'est parce que justement, soit Dembélé s'est reculé, il s'est mis de côté, il a fait une fausse piste. Il est utile. Sans Dembélé, je ne sais pas si Depay marquerait autant.
Non, mais c'est un bon joueur.
Ils ne sont pas encore complémentaires. Utiles tous les deux.
C'est peut-être un des facteurs qui pourrait semer le doute, en tout cas. C'était en tout cas ce que je voulais dire.
Moi, le doute, Annie,
je
vais plutôt. On va avoir un but de Reine Adélaïde, on oublie de parler de ce garçon.
Enfin, le doute, je l'ai plutôt derrière.
Parce que
le doute, il est derrière.
C'est bien qu'ils aient des joueurs offensifs en forme, comme Depay, important, les retours d'avoir et tout. Mais si derrière, ils prennent 2 buts ou 3 buts, il va falloir que
c'est le
qui avait été plutôt bon contre Lisbonne.
Et
Léo Dubois.
Ouais, il est pas là.
Justement, ils ont perdu Léo Dubois, donc ça ne rassure pas une défense non plus qui était pas extraordinaire.
Il y a pas beaucoup de latéraux qui sont valides.
Non, Lopez est moins décisif cette saison.
Alors qu'il est contaminé par sa défense.
Ouais. Bah, sûrement. Mais avant, il était très décisif et c'est souvent lui qui faisait un peu la différence.
Alors
comme
depuis sa grosse bourde de Lisbonne, on s'en souvient de son passe en retrait, il s'est quand même un peu rattrapé entre guillemets.
Anime, il est excellent, par exemple.
Ce week-end.
Le problème, ça va être à
Nîmes.
Le problème, ça va être à la perte du ballon.
Est-ce que Nîmes, c'est le retour de Depay. Depay revient 4-0. Alors que
je suis d'accord, mais l'arrêt de Lopez au tout début de match, s'il le fait pas, il y a 1-0, et c'est peut-être plus du tout le même match, parce que le doute s'installe et c'est encore un autre match.
Olivier, ce qu'on évoquait aussi peut-être en point positif, c'est ce bilan effectivement assez négatif de Rudy Garcia, pourtant habitué de la Ligue des Champions, parce qu'il l'a disputé, alors avec des clubs français encore, on pense un peu à Lille à l'époque.
Il n'y a pas tant de matchs que ça, parce que justement, 27, il a un ratio malheureusement.
Avec Rome, on se souvient de Rome.
Dans les entraîneurs à plus de 20 matchs, moi je me souviens de cette stat-là qui date de Benfica, mais qui n'a pas dû beaucoup changer depuis, puisqu'ils ont, gagné contre Benfica, mais ensuite ils ont perdu au Zénith. Il a le ratio le plus faible de tous les entraîneurs.
5 victoires en 27 matchs.
Je suis d'accord, mais juste un bémol là-dessus, parce que j'étais voir toutes ces phases de groupe avec les différents clubs. Avec Lille, il est dans des groupes très compliqués, une équipe qui est quand même très faible au niveau européen. Et avec Rome, il est dans des groupes très très compliqués, très, très limite des groupes de la mort.
Il y a un moment, tu peux aussi
gagner une fois, c'est ça.
Il y a Manchester City dans le groupe et le Bayern.
Cette stat, elle est destructrice. C'est-à-dire, je veux dire, c'est dur parce que c'est bien de rappeler le contexte et de nuancer, mais vous prenez un entraîneur pour passer en Ligue des Champions, c'est-à-dire parce que c'est ça l'objectif de Lyon, c'est de s'inscrire avec les meilleurs clubs européens, et à chaque fois sur le podium. Et vous rendez compte que vous prenez un entraîneur qui est tout sauf bon en Ligue des Champions.
Enfin, vous rendez compte, ils ont dû le voir avant nous. Avant
je suis pas persuadé, Annie, parce que des fois on peut être surpris dans le football. Ce soir, c'est un crash test pour Rudy Garcia.
C'est un test pour l'instant.
C'est un test. On verra si c'est un crash demain.
Non, mais ça peut encore aggraver la défiance. Il est arrivé. On a tous été très surpris de son arrivée et du choix de Jean-Michel Aulas et de la direction lyonnaise. Parce que si ça se passe mal ce soir, bon courage pour le reste de la saison. D'autant qu'en plus pour le podium, on est loin d'y être.
Juste la stat qui est presque plus angoissante quand même pour Lyon, elle a été évoquée tout à l'heure, c'est 3 victoires depuis 2011 à domicile et Apollon
Nicosie. Alors là, c'était pas que lui,
Dynamo Zagreb, de la deuxième division. Avec la Ligue 1, on est aussi en deuxième division en termes européens.
Exactement.
Européen, une dernière question, Chef Guémo, pour cette équipe qui a un ADN un peu européen. Est-ce que la Ligue Europa, s'il la décroche, ça serait une consolation pour les Lyonnais?
Ça peut l'être.
Ce serait exceptionnel, c'est pas une consolation. On gagne rien en France. Comment on peut parler
de
ça? Ma question, je l'ai mal formulée.
Mais
est-ce que ça peut vraiment les consoler alors que là, on les voit complètement n'avoir envie, on pourrait dire, que de Ligue des Champions?
Je rappelle que la génération Fekir est née de l'Europa League. Quand ils se font éliminer en quart de finale par la Juventus, toute cette génération, elle est née là. Donc, pourquoi pas? cette équipe, elle peut basculer dans le positif dans la deuxième partie de saison et faire un parcours honorable. D'autant plus que maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde joue l'Europa League.
Oui. Mais je dis pas qu'il faut pas la jouer, mais je me demande dans la tête, et surtout chez les dirigeants, est-ce que ça serait quand même une consolation?
Non, c'est un échec.
Non, mais attendez, mais la consolation arriverait dans le sens où, il y a 3 mois d'écart entre le moment d'aujourd'hui et les 8e de finale ou 16e de finale en Europa League.
16e, oui.
En Europa League. Donc ils ont le temps de se consoler et surtout c'est une compétition en plus que Rudy Garcia apprécie plutôt bien. Ouais. Faut juste espérer que s'ils se qualifient pour l'Europa League, qu'ils fassent pas la même chose qu'avec l'OL. Mais
ce serait un échec.
Qu'ils focalisent sur l'Europa League et qu'ils oublient le championnat.
Ensuite vous rebondissez. Ouais. Si jamais vous vous qualifiez pour les quarts de finale par exemple de la Ligue Europa, la phase de groupe, on oubliera. Une élimination ce soir de la Ligue des Champions serait forcément un échec.
Bien sûr, tous d'accord.
Que vous aurez peut-être l'occasion de compenser parce que là encore, avec un nul vous pouvez passer, mais avec une défaite vous pouvez retrouver dernier, même pas de Ligue Europa.
Dans le même groupe, en tout cas, il y a le Benfica de Lisbonne qui recevra, eh bien, dans son beau stade, le Estadio d'Alois, le Zénith Saint-Pétersbourg. Une victoire pour espérer rester là dans la compétition pour une de ces deux équipes. Et donc, gros suspense et rendez-vous sur l'antenne ce soir. Alors étrangement, le vainqueur de l'an dernier, Liverpool, eh bien n'est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale. De même pour d'ailleurs cette si séduisante équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Il faut noter que le dernier tenant du titre à être éliminé de la Ligue des Champions, Bruno, je vous regarde.
C'est dès la phase de poule, avoir été éliminé dès la phase de poule.
Pardon, dès la phase de poule, oui.
C'était qui? Non, vous avez dit le dernier avoir été éliminé de la Ligue des Champions.
Oui, mais en tant que vainqueur, pardon.
Oui, mais
et à ce stade.
Oui. Mais Bruno,
à ce même stade.
Ils sont qui après sur la Ligue Europa?
Donc c'était Chelsea. Oui.
C'était incroyable. Alors, le Chelsea de Drogba qui gagne la Ligue des Champions, qui l'année d'après est sorti en poule mais reste en Ligue Europa.
Mais c'était un Chelsea en crise. La grande différence avec Liverpool, c'était un Chelsea en crise. Di Matteo allait se faire éjecté. Rafael Benitez arrivait à Chelsea, qui était détesté du public de Chelsea, ce qui ne les a pas empêchés d'aller en finale de l'Europa League et de la gagner.
Et de la gagner.
Liverpool, parlons de Liverpool.
Bon. Là, Liverpool, c'est un peu différent.
Voilà, justement, on y vient pour ces Reds. Alors, eux, bon, c'est un peu leur défaite à Naples, qui les a un peu plombés jusqu'à présent, qui a retardé leur qualification avant l'heure. Ce soir, ils jouent donc leur avenir en Autriche, chez le RB Salzbourg, annexe de Leipzig, c'est de RB. Ils bénéficient du même investisseur et ils échangent souvent leurs joueurs. Liverpool est-il en danger? En tout cas, Jürgen Klopp, nous le laisse croire.
Nous allons jouer le match le plus important de notre vie, parce qu'il n'y en aura pas d'autre après. C'est vraiment important et nous ne pourrons penser qu'à notre prochain match de Première Ligue après celui-ci. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration qu'en championnat. Notre situation en Ligue des Champions est correcte, mais loin d'être brillante. Nous devons continuer à travailler et rester déterminés pour ce match contre Salzbourg.
Ben Bruno, on va pas contredire vraiment Jürgen Klopp, mais quand même le match le plus important de leur vie, une courte vie, alors récente vie, parce que j'imagine qu'une finale de Ligue des Champions.
Ben non, mais avec Klopp, le match le plus important de sa vie, c'est toujours prochain.
Exactement.
Et il a raison de fonctionner comme ça.
Évidemment.
Après, on n'est pas dupes.
En tout cas, justement, Liverpool qui s'envole en championnat, qui caracole en tête depuis longtemps, qui a enchaîné 24 victoires en 25 matchs. Donc cette équipe qui domine, est-ce que là, ils avaient mis un peu la pédale douce sur la Ligue des Champions?
Non, parce qu'ils se retrouvent un peu dans la même situation que la saison passée, où ça s'était joué à la dernière journée. La seule différence, c'est que c'était Anfield face à Naples. Donc ils avaient le soutien, ils étaient portés par le public d'Anfield. Là, c'est à l'extérieur, donc c'est un peu différent. Où ils sont souvent en danger, malgré tout, à l'extérieur. Ils ont du mal encore dans les déplacements en Ligue des Champions, en tout cas dans les déplacements de poules. Ouais. La seule différence, peut-être, c'est que ce qui s'est passé sur la dernière semaine en Première Ligue, avec l'écroulement de Manchester City, la défaite de City, je ne vais pas dire qu'ils leur offrent le titre, mais pas loin quand même. Le premier concurrent, maintenant, c'est Leicester. Ils sont à 8 points. Donc, s'ils négocient bien la deuxième partie de saison, il y a de grandes chances qu'ils soient champions pour la première fois depuis 30 ans. Ça leur a donné un boost énorme. Et ça s'est vu lors des deux derniers matchs où ils ont eu deux larges victoires dans le derby de Liverpool face à Everton et à Bournemouth, où on a retrouvé le Liverpool qui était vraiment un cran au-dessus et qui commençait à accélérer un peu.
Un peu libéré.
Et c'est une période importante de la saison de Liverpool parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive et ensuite le Boxing Day. Et ils peuvent vraiment, ça va déterminer une grande partie de leur saison, la qualification en 8e Ligue des Champions, peut-être champion du monde et sans doute assommer la Première Ligue.
C'est un match important pour Sadio Mané, comme il est passé par Salzbourg, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Il y a Haaland.
Quand on voit comment il a digéré.
Il est passé que par des grands clubs, Salzbourg, ouais. Le FC Metz. Ouais.
Quand on voit comment il a digéré sa quatrième place. Quand on voit comment il a digéré sa quatrième place au Ballon d'Or et la manière dont il a réagi sur le terrain, il a retrouvé.
Intelligemment, donc.
De manière assez exceptionnelle. Bon, franchement, je veux bien qu'il soit en danger. Ce serait quand même un coup de tonnerre.
Non, c'est une question.
Il y a Haaland, le numéro 9 de cette équipe de Stade.
Le nouveau Zlatan de Raiola.
La marge de Liverpool cette année avec des champions en phase de poule, elle est pas si grande que ça. Donc c'est pour ça qu'il y a danger. Ils sont pas à l'abri d'un
ils mettent des bouillons à Manchester City.
N'oublions pas qu'ils peuvent passer même
en 4 buts contre Salzbourg.
Ils ont tremblé en Ligue des Champions.
Ils ont pris des buts à l'aller contre Salzbourg.
N'oublions pas qu'ils peuvent passer même en cas de nul voire de défaite contre ce qui se passe ailleurs mais évidemment qu'ils viennent pour gagner. Quand on est Liverpool et quand on est tenant du titre, on passe pas par les autres pour aller en 8e. Forcément donc ça fait pas un pli même si Salzbourg a du potentiel.
Eh ben justement du potentiel, Olivier. Je suis sûr que Chérif va enchaîner le potentiel pour les Autrichiens. Bien, c'est notamment ce Norvégien Erling Haaland, 19 ans, deuxième meilleur buteur de la compétition à ce jour. 8 buts en 5 matchs. Il est juste doublé par Lewandowski. Jürgen Klopp a dû prévenir ses défenseurs parce que quand vous le soulignez et vous avez raison, il a dit Klopp. Il n'est pas le seul bon joueur de cette équipe, mais il a dû quand même prévenir ses défenseurs parce que Haaland avait marqué en field au bout de 4 minutes.
Ouais. Et il évidemment. Ils étaient menés à Liverpool, il me semble, deux heures.
Oui, oui. Ouais, et ils étaient. Il est évidemment prêt à recommencer ce soir à Londres contre les vainqueurs sortants. Même pas peur, ce jeune Erling Haaland.
I'm living the dream and.
Je suis en train de vivre un rêve. Vous rêvez de jouer ce genre de match, donc j'en profite. J'essaie d'être le plus détendu possible sur le terrain, comme en dehors ou à l'entraînement. Liverpool est une équipe fantastique, mais Salzbourg aussi en est une. Je suis confiant dans notre attaque et notre capacité à nous créer des occasions.
Erling Haaland, du haut de ses 19 ans, il est effectivement dangereux.
Il est régulier.
Même pour une défense quand même assez ardue, je pense à Van Dijk de Liverpool.
Ouais, mais il a quand même trouvé la faille une fois, deux fois à Anfield. Enfin, peu importe, il a marqué. Il est régulier, il a le geste juste devant les buts. Il est très froid, bon, nordique et tout, évidemment.
Très froid.
Mais il est régulier et puis il a peur de rien. Il a peur de rien, 19 ans.
Voilà. Effectivement, aujourd'hui, nos confrères d'Eurosport lui consacrent un portrait assez intéressant sur son parcours. Et ils expliquent que, notamment, il a voulu, lui aussi, un peu à la mode Mané, faire étape par étape, à la différence de Odegaard, qui est allé tout de suite au Real pour revenir un peu en arrière avant peut-être de revenir.
Bah, ça va beaucoup mieux pour lui.
On dit qu'on l'attend au Real, en tout cas.
Bah, ça va beaucoup
mieux. Ce qui est amusant, c'est qu'il dit que quand il avait à peu près 16 ans et qu'il était au club qui s'appelle Molde.
FK.
Entraîné.
Qui l'a aidé et qui surtout a peaufiné son style d'attaquant et de buteur, et bien c'était Solskjaer.
Oui, qui avait entraîné Molde. Ouais.
Voilà, à l'époque où il était là. Et
c'est
donc
là qu'il est bon,
cette rencontre.
Solskjaer. Dans la formation.
Oui, mais on dit que Zidane a aussi beaucoup conseillé, notamment Rodrigo et certains joueurs.
Ah oui,
et
oui.
On voit que les entraîneurs, des fois, sont essentiels.
Surtout quand l'entraîneur en question était un ancien attaquant et qui sait se déplacer. C'est exactement ce que disait Anthony Martial dans une interview récemment sur ce que lui apportait Solskjaer, la manière de se déplacer dans la surface et ce qui était le plus important, voilà, le but, etc.
Ça a moins bien marché pour Thierry Henry à Monaco, de ce côté-là.
C'est vrai. Hein,
ça a bien moins bien marché avec Lukaku qui s'est plus déplacé à l'Inter de Milan.
Bon, en tout cas, il faudra faire donc attention au péril Haaland dans cette équipe et sur le terrain. Dans ce groupe incertain, avenir incertain pour le Napoli. Alors, en dépit de lui-même et de ses résultats, bien sûr, voilà, puisque cette équipe italienne a tout pour se qualifier à domicile face au club belge déjà éliminé de Genk, mais au pied du Vésuve, eh bien, la situation du club est plus que volcanique. Carlo Ancelotti dirigera sans doute son dernier match, Olivier. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire.
Ouais.
C'est ce que nous dit notre correspondant aussi, Matteo Ciocchi.
C'est ce qu'il disait depuis hier.
Ce que dit la Gazzetta.
Ils vont lui laisser jouer ce match-là, mais Gennaro Gattuso, apparemment, il doit être du côté de... C'est Capri en face, là, c'est ça. Puis il prendra le ferry demain matin, tranquillement.
Capri, c'est fini, oui.
Mais c'est Ancelotti, c'est fini, vraisemblablement avec Naples, mais c'est... Ça se sentait depuis des semaines et des semaines. Il a pris la défense de ses joueurs. Il est allé à l'encontre de ses dirigeants. Et puis, voilà. Je suis sûr que lui-même le sent venir depuis longtemps et qu'il est assez serein.
Lui n'est pas vraiment allé à l'encontre de ses dirigeants. Hein. Il a fait un peu le tampon entre les joueurs qui se rebellaient et lui, il a essayé de mener la barque comme il a pu.
Déjà, il y a deux mois, il y avait déjà eu un problème. Il avait vraiment pris la défense de ses joueurs.
C'est surtout qu'avec De Laurentiis, de toute façon, à un moment donné, ça pète. Avec tous les entraîneurs qui sont passés, à un moment donné,
ça pète. Ça a duré très longtemps, Sarri, quand même.
Bah,
ça a duré 4 ou 5 ans, non?
Non, je crois pas, pas si long que ça.
Hein. Non,
non. Enfin, je n'ai pas à souvenir. Avec Benitez, ça a duré un an ou deux. Avec Ancelotti, on est dans la deuxième année.
C'est sa troisième saison, donc c'est ça.
Ancelotti, c'est la deuxième.
Il y a aussi l'entraîneur avec les lunettes, là, Walter Mazzarri.
Mm-hmm.
Avec qui ça s'était pas trop mal passé. Ouais.
Mais en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer dans ce contexte que les joueurs vont vouloir aller offrir une belle sortie à leur coach, parce qu'ils sont un peu en perdition derrière c'est les incroyable. Premiers en championnat, mais par contre en Ligue des Champions, ils ont encore leur billet.
Ils restent sur un très gros match en field.
Il y a ce dernier match qu'ils perdent 2-1. C'est contre qui j'ai oublié. Enfin, peu importe. À un moment, ils arrêtent de jouer.
Oui.
C'est contre Salzbourg, si je me trompe pas.
Non, ce week-end en Serie A.
Voilà,
Il y a une attitude qui est assez incroyable, ce qui se passe.
Après, pour le reste, le peu qu'on a vu, moi, je me rappelle, enfin, leur début de saison, que ce soit en Ligue des Champions, ça se tenait. C'était une bonne équipe. On était un peu sur les mêmes bases que l'année dernière. Ça s'est écroulé tout d'un coup. Là, maintenant, ils sont en crise. On peut pas savoir comment ça va finir. Moi, je pense quand même que les joueurs sont suffisamment responsables, que la victoire est à leur portée, donc la qualif est jouable. Mais
ils vont jouer la Ligue des Champions, ils vont arrêter le championnat. De toute façon, le championnat, ils sont cuits.
Ah, ils sont à 4 points du.
Oui, eux qui ont toujours talonné. Ils
sont cuits et puis ils ont raté le coche à plusieurs reprises, notamment avec Sarri. Alors c'est vrai, Sarri
est resté. Par contre, quand on regarde l'effectif, l'équipe type, c'est incroyable. C'est une super équipe.
Qui n'y arrivent pas.
Ils n'y arrivent pas. C'est la crise. Voilà, c'est la spirale.
Sarri, il a bien fait. Donc, Annie, vous aviez raison, il a bien fait 3 ans. 2015-2018.
Il avait tenu.
Vous voulez son bilan? 98 victoires, 25 nuls, 25 défaites. Voilà.
Ah oui, ils l'ont laissé partir à regret. Et d'ailleurs, il est parti très peu de temps.
Il a incarné quelques
chose. C'est vrai que c'est. J'étais passionné quand
Ancelotti
avait fait 2 saisons complètes. Non,
mais 3 saisons à Naples, c'est quand même une belle prouesse.
Il est qualifié pour la Ligue des Champions, il me semble.
Oui. En tout cas, autre groupe, autre centre d'intérêt, c'est cette donc équipe de l'Ajax d'Amsterdam.
Je peux vous en parler avec grand plaisir. Parce que je suis ami avec les joueurs de l'Ajax maintenant.
Vous savez que c'est lui qui les a accompagnés à Paris quand ils sont venus au Ballon d'Or.
Il nous a raconté.
C'est avec eux que je faisais les selfies sur le tapis.
Alors c'est moi selfie. Je préfère être tout de suite franc avec vous, Olivier, parce que je sais que vous êtes très à cheval sur les.
Oui, tout le monde pense les
détails.
Mais non, mais absolument pas.
Posez juste pour qu'on le prenne en photo, c'est pas pareil.
Non, j'étais en train de les filmer très tranquillement parce que j'ai un ami maintenant du côté de l'Ajax d'Amsterdam qui s'appelle Dusan Tadic et donc du coup je lui prenais des photos quoi et je ne me suis pas pris en photo.
Et vous l'envoyez où en janvier?
Pardon?
Vous l'envoyez où?
Il est très bien où il est. Il m'a dit le plus grand bien de Radonjić. En revanche Van de Beek, que je ne sais pas comment on prononce mon cher chéri, lui se verrait bien au Real Madrid. Voilà pour vous dire tout.
Là non. C'est fait je crois.
En tout cas la séduisante Ajax en tête de son
ils
groupe.
Ils sont en tête.
Une victoire là sur sa qualification. C'est face à Valence. Oui, aussi, mais disons une victoire, au moins c'est mieux, face à Valence, pas très en forme en championnat.
Ils ont perdu.
Alors, il y a des absents dans cette équipe de l'Ajax, Neres, le Brésilien, le buteur.
Et un deuxième
dont le nom m'échappe, excusez-moi. Ouais. Mais bon, en tout cas...
Oui, mais il y a Ziyech.
Quincy Promes.
Il joue pas. Mais il y a Ziyech, il y a Tadic, le copain de Nabil, il y a aussi dans les buts, il y a Onana, le Camerounais Onana.
Mais Nabil hésite peut-être à justement jouer peut-être ce soir, c'est ça, tu m'avais dit.
En principe, ils ont gagné, ils sont leaders, ils ont gagné. Ils ont gagné à l'aller.
Ils ont perdu en championnat. C'était la première fois depuis combien de temps?
Depuis 2 ans. Ils se sont fait surprendre contre Willem II, il me semble. 2-0, je ne sais pas. Moi, il y a toujours le petit relâchement coupable. Quand je les vois en championnat, il y a toujours ça. Il y a toujours leur fameux repli, enfin la transition attaque-défense qui pose toujours problème. C'est là qu'ils prennent des buts. On l'a encore vu contre Chelsea. Il y a toujours ce petit relâchement. Voilà, il faudra un gros relâchement ce soir pour qu'il ne passe pas. Mais il existe, il y a toujours la petite euphorie qui les accompagne, parce que ça reste une équipe jeune. Ils peuvent mener 4-1 contre Chelsea, la victoire était dans la poche, à la fin il y a 4-4. Donc je les ai vus aussi en championnat contre Rennes par exemple, se faire remonter à 3-3 alors qu'ils mènent 3-0. Voilà, ça arrive avec l'Ajax, ça arrive. Normalement, ils passent, ils sont 2 points d'avance.
S'ils perdent pas, ils sont qualifiés. Donc,
tu vois,
donc vous musez sur l'Ajax. On a Lille. Le champ du signe européen pour les Lillois.
Non.
Ils passeront pas.
Mais ils peuvent contrarier Chelsea.
Voilà, Lille. À Londres, à Chelsea, des Blues un peu minés par leur mésaventure en championnat. Les hommes de Lampard, pas très en forme.
Coup d'arrêt
en tout cas, très motivés. Écoutons le défenseur de cette équipe, Kurt Zouma.
Vous savez, ce match est comme une finale pour nous. Nous devons gagner absolument. Donc c'est vraiment très important. Ah bon, dans les matchs précédents, nous avons presque toujours encaissé un but, mais nous avons plutôt bien joué. À l'Ajax notamment, où nous avons gagné, et lors du match retour chez nous. C'était fou. Nous sommes revenus après avoir été menés 4-1, et nous avons montré beaucoup de caractère. Là, c'est une histoire différente. On sait que si on gagne, on est qualifié. Et c'est la seule chose que nous voulons.
Alors, que peuvent les Lillois, qui quand même sont troisième du championnat de France,
mourir debout.
Oui, ils ont joué la compète.
Oui, c'est ce que nous dit Gérard Lopez, hein, qu'ils ne vont pas leur faire cadeau de ce match.
Il a bien
raison. Mais j'imagine que, par contre, Lampard, il a hautement motivé ses joueurs.
Bah, c'est surtout qu'ils
rassurez-nous, Bruno, quand même, bah, Chelsea à domicile.
J'aimerais surtout que Lampard essaie de rassurer un peu ses joueurs, que ses joueurs se rassurent, parce qu'en Ligue des Champions, cette saison, ce n'est pas terrible. Notamment à domicile, ils n'ont toujours pas gagné. Là, ils sont sur une série de
tout est battu par Valence d'entrée. Hein.
Ouais, ouais.
Ils ont été bien à Amsterdam.
Ils sont allés gagner à Amsterdam.
C'était bien. Penalty raté, première journée de Barclay au-dessus de la transversale. Ouais. Là, il reste sur 3 défaites en 4 journées. Face à des équipes qui pourtant étaient en difficulté, notamment West Ham.
C'est incroyable.
Il y a eu défaite à Manchester City. Ils sont vraiment un coup d'arrêt. Je ne sais pas si c'est physique ou si c'est les premiers petits craquements de la gestion de Lampard, qui par exemple avait mis Giroud dans un placard sans le sortir de temps en temps pour lui donner du temps de jeu. Il en a eu besoin contre West Ham parce que Abraham était blessé. Du coup, Giroud s'est propulsé titulaire sans avoir joué et du coup, il n'était pas dans le rythme. Et du coup, ça leur a porté préjudice. Donc voilà, je trouve que la gestion de Lampard n'a pas été très bonne sur les dernières semaines. Et voilà, c'est une équipe jeune, on oublie de le
parfois. Oui, c'est
une équipe jeune qui a des défauts. Le fond de jeu, il est là.
Moi, le fond de jeu est là, mais ça suffit
les
pas.
Les occasions. Ouais.
Non, mais ce soir, ils peuvent pas.
Ils ont les défauts de leur qualité. C'est une jeune, mais un peu naïve parfois.
Ce soir, ils n'ont pas le droit. C'est une faute professionnelle.
Bien sûr, surtout face à une équipe qui est déjà éliminée.
Une équipe qui est éliminée, qui va faire tourner. Alors, je veux bien qu'il y ait un contre-coup, qu'il y ait peut-être un peu de manque de fraîcheur, qu'il y a des choses à digérer pour certains, une notoriété qui est accrue. Mais normalement, ce soir, ça ne doit pas faire un pli, quoi. Chelsea doit se qualifier.
Alors, dans ce groupe, eh bien, il reste aussi deux équipes très importantes. Dans un autre groupe, bien sûr, c'est celui du Barça.
Ah là là.
Avec le stade.
L'équipe B du Barça ce soir, a priori.
Avec un gros rendez-vous donc dans le stade.
Barcelone.
Le stade San Siro, qui ce soir, quand c'est l'Inter qui joue, s'appelle Giuseppe Meazza. L'Inter d'Antonio Conte tentera sa qualification donc et face au Barça. Mais un Barça sans Lionel Messi, est-ce un véritable Barça ? Là est la question. Les Nerazzurri ont une vraie chance de se qualifier, même une chance. On se souvient du match aller absolument incroyable entre ces deux équipes du côté du Camp Nou. Lukaku et Lautaro Martinez, qui sont très très bien et très forts en ce moment.
Coup d'arrêt ce week-end contre la Roma quand même. 0-0.
Ouais, frein.
Ils n'ont pas trouvé la frein.
En fait, ils sont économisés, peut-être.
Peut-être.
Ils sont quand même en tête et ils ont une bonne avance sur la
Juve. Surtout, ils ont deux coups d'arrêt,
c'est pour la Juve.
C'est un des meilleurs duos d'Europe. Derrière Slimani et Ben Yedder, c'est ce qui se fait quasiment de mieux.
J'ai pas dit défaite ou échec. C'est un petit coup d'arrêt quand même.
Petit coup d'arrêt. Nabil.
Moi, je crois dans cette équipe de l'Inter. Et d'ailleurs, je ne souhaite à personne de les croiser en 8e de finale de la Ligue des Champions, parce que ce que réussit Conte, c'est absolument extraordinaire. Vous parlez de cette paire d'attaquants, mais il y a plein d'autres satisfactions. Il y a un gardien qui est, à mon sens, sous-coté international.
Absolument. Il les sauve,
Andanovic, Samir Andanovic, qui est un gardien fantastique. Après, il y a de l'intensité au milieu avec des courses avec Sensi, par exemple. Moi, j'espère qu'ils vont se qualifier, l'Inter, plus que Dortmund. Je ne suis pas plus l'un que l'autre, mais je trouve que
ils ont le même nombre de points, les deux équipes. C'est pour ça qu'on parle, c'est vraiment le match.
La dynamique, est-ce que fait Antonio Conte, c'est extrêmement intéressant. Et grâce à Antonio Conte, et ça c'est important à dire, il nous offre quand même un championnat d'Italie. Parce que ça a l'air de rien.
Ça devient sérieux.
Surtout
quand l'équipe d'Ancelotti a un peu décroché, effectivement, il reste quelque chose face à la Juve.
Donc pour toutes ces raisons, et en plus, ce soir, il y a aussi un garçon qui est suivi de près par Barcelone, il s'en est pas caché, le président du Barça, c'est Lautaro Martinez, l'Argentin, qui pourrait être
22 ans.
Un successeur à Suarez à terme dans l'axe. Alors je sais pas si.
Encore un attaquant argentin, mine de rien, il les sort.
Suarez, il ne sera pas titulaire non plus ce soir.
Alors ma question, c'était, est-ce que Griezmann joue ou pas?
Oui, a priori.
Donc Griezmann est le leader du Barça B, alors. C'est ça qu'il faut comprendre.
Il est donné comme attaquant de pointe ce soir dans une équipe qui est vraiment, encore une fois, profondément renouvelée.
Voilà. Donc vous avez la réponse. Suarez n'est pas là.
sur ce que j'ai vu. Mais donc, enfin, voilà, ça n'est que voilà. Des suppositions.
Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais
si, Suarez est annoncé.
Ah, sur... bon. Ah, bon.
Une dernière rencontre intéressante dans tout ce cadre, c'est évidemment celle que disputera le Borussia Dortmund face à Prague à domicile. Mais peut-être peut-on dire, je ne sais pas qui veut répondre, mais que c'est peut-être trop juste et trop tard.
Ah, c'est Bruno. Pas trop tard, non. Non, c'est pas trop tard, parce que s'il gagne.
Oui, mais
priori,
si l'Inter gagne, c'est
en bonne voie s'il gagne.
Oui, s'il gagne, c'est en bonne voie. Enfin, ouais. Ils sont dans une situation un peu plus, je vais pas dire plus simple, mais.
Battre le Slavia, ils ont fait battre le là-bas, au FC Barcelone.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est plus. Je veux dire, je pense que c'est quand même plus simple de battre le Slavia Prague que de battre le Barça B, c'est ça que je veux dire.
Oui.
A priori. Après, le Slavia sur cette phase de Ligue des Champions, même s'ils sont déjà éliminés, moi, je les ai trouvés très, très bons dans le jeu.
Tout à fait.
Très intéressant, avec beaucoup d'ambition dans le jeu. Ce que, par exemple, certains clubs français n'arrivent pas à montrer, ouais. Avec des moyens limités, le Slavia. Après, moi, le Dortmund, c'est la crise de... Même s'ils vont un peu mieux en championnat, c'est un peu une crise de confiance ou de croissance, je ne sais pas. Et qu'on parlait avant l'émission, je disais, Mourinho, c'est le syndrome de la troisième saison. Mais Favre, j'ai l'impression que c'est le syndrome de la deuxième saison. C'est qu'il arrive, il a beaucoup de mal à confirmer quand même ses premières saisons qui sont toujours très belles. Et c'était le cas déjà un peu à Nice. Et là, ça part un petit peu à volo à Dortmund.
Mais entre l'Inter et le Borussia, pour vous, c'est la mission plus facile pour le Borussia Dortmund que pour l'Inter?
A priori, ils sont à domicile.
Mais après, attention, le Slavia a fait match nul à l'Inter, à Giuseppe Meazza, et a fait match nul au Camp Nou. Donc Bruno a quand même raison de rappeler que c'est une équipe qui est joueuse et puis qui joue des matchs de gala. Là, les joueurs du Slavia, de jouer le Barça, l'Inter et Borussia Dortmund, pour la moitié d'entre eux, c'est extraordinaire.
Mais ça se trouve, même un Barça B va battre l'Inter.
Oui. Non, je pense pas. Moi, je vois quand même l'Inter passer. On verra quelle équipe du Barça est alignée.
Moi, je trouve que l'Inter n'a pas été récompensé de ses efforts et de la qualité de ses matchs en Ligue des Champions. Ouais. Ils font notamment au Camp Nou un match formidable. Ouais. Et ils ne sont pas récompensés, donc j'aimerais bien les voir passer quand même. Ouais. Et voir le projet Conte continuer, et voir ce que ça peut donner.
Et si l'Inter passe, Annie, je vous l'annonce en exclusivité sur vos
ça noms. Tombera sur le PSG.
Il y a deux équipes qui peuvent tomber sur le
PSG.
C'est
l'Atlético qui va tomber sur le PSG.
C'est Tottenham ou l'Inter. Notez bien, c'est une des deux équipes, je vous le mets, mais dans le mille.
D'accord, ok. Eh bien écoutez, misons et on verra, nos auditeurs nous écoutent. Voilà pour notre page Ligue des Champions. Et donc, n'oubliez pas le rendez-vous sur RFI à
19h56, la prise d'antenne. Hugo Boissonnier qui anime avec Christophe Jousset. Vous savez, c'est l'homme des réseaux sociaux. Donc, si vous êtes à l'écoute, posez-lui des questions. On aimerait bien voir s'il a réponse à tout. Et puis, n'oubliez pas qu'à Lyon, il y a Éric Chorin.
Exactement. Qui nous racontera tout donc depuis le parc OL. On continue et on s'intéresse eh bien, à la future Coupe du Monde. Vous vous souvenez de cet hymne qui était notre générique à Radio Foot International? C'était celui consacré à la Coupe du Monde 2018. La Russie accueillait alors la dernière fête mondiale de la planète football, donc 2018, dans une douzaine de villes de ce vaste pays. Mais demain, pour le prochain rendez-vous, disons, c'est-à-dire celui de 2022, eh bien la Russie ne sera pas là. En tout cas, elle sera là, mais elle sera l'ombre d'elle-même. Écoutez les explications au sujet de la Russie.
Si elle se qualifie, une équipe représentant la Russie ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde. Mais si un système adéquat est mis en place, elle pourrait y prendre part sous bannière neutre et non pas comme une équipe russe. Il va falloir examiner chaque compétition au cas par cas. Mais clairement, il n'y aura pas de drapeau russe ni des joueurs portant les couleurs de la Russie.
Not as representatives of Russia. Voilà, Monsieur Taylor, qui est de l'Agence mondiale antidopage, qui est de l'AMA. Alors, disons, Olivier Pron, que c'est les signes extérieurs, comme on comprend, de la Russie qui ne seront pas là. Pas de drapeau, pas d'hymne, mais par exemple, on pourrait avoir un Golovin apatride.
Oui, en fait, tous les athlètes qui n'ont pas été contrôlés pour dopage sont susceptibles de compétir, comme diraient nos amis africains, de concourir, en tout cas, voilà, de participer à des compétitions internationales sous une autre bannière que celle de la Russie. Alors après, ce qui est très paradoxal dans cette affaire, c'est que donc les Russes, sont autorisés à participer aux qualifications pour cette Coupe du Monde 2022. Mais s'ils se qualifient, ils ne seront pas autorisés à participer à la Coupe du Monde. Et on explique du côté de l'AMA qu'en fait, leur suspension, elle touche toutes les compétitions internationales qui délivrent un titre de champion du monde. Alors les qualifications, dans le... j'essaie de suivre leur raisonnement. Hein. C'est pas Olivier Pron qui parle, hein, c'est l'AMA. Parce que moi-même, j'ai un peu de mal à m'entendre là et à me comprendre. Ça veut dire que quand vous disputez des qualifications, bah, y a pas de titre au bout. Vous n'êtes pas champion du monde, vous vous qualifiez juste. En revanche, si vous participez à la Coupe du Monde, vous pouvez devenir champion du monde. Ah ben ça, c'est pas possible. C'est d'ailleurs la même raison qui explique que la Russie sera bien à l'Euro.
Mais c'est une décision technocrate.
Continentale. Ce qui est complètement débile, quand vous êtes dopé, vous êtes dopé. Vous êtes même sur une compétition continentale, vous êtes champion d'Europe. Si vous avez triché, ben, quelqu'un d'autre mérite votre place. C'est pareil si vous devez être champion du monde. Donc voilà, là, il y a deux points de mesure, mais en tout cas, ça ne touche que les compétitions internationales qui délivrent un titre de champion du monde.
Où les footballeurs donc sont donc concernés, effectivement. Bah,
enfin, s'ils font les qualifs qui se qualifient, l'équipe qui sera éliminée aura juste pourra dire, attendez, ils se qualifient, mais ils vont pas.
Sur le fond, ils ont peut-être raison. Il y a un dopage systémique en Russie. Bon, voilà, ça a été c'est avéré, prouvé, on peut faire confiance.
Documenté et prouvé, oui.
Voilà, mais c'est quand même une décision un peu technocratique, une aberration administrative que d'expliquer qu'une étape intermédiaire. En fait, vous pouvez concourir ou compétir, comme on dit en Afrique, à une étape intermédiaire, et que finalement, un tournoi avec une finalité que tout le monde connaît, vous ne pouvez pas y aller. Moi, à titre personnel, franchement, je suis toujours très... Je trouve qu'évidemment, il faut lutter contre le dopage et tout, mais je pense à des générations d'athlètes qui peuvent être sacrifiés pour certains, qui ont fauté. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne sanction dans ce genre de situation, mais il faut pas oublier que c'est quand même des jeunes sportifs, certains, comme
qui
vous l'avez
certains
dit,
certains d'entre eux aimeraient bien sortir de ce système qui existe depuis la nuit des temps en Russie, avec des entraîneurs qui ont toujours fait comme ça, voilà, exactement, donc, et qui aimeraient
donc c'est quoi, vous rasez tout et puis tant pis pour ceux qui étaient là à ce moment-là, quoi. Ça sera pour les autres, donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est cruel là-dedans pour le sportif.
Il y a déjà ça au niveau des athlètes. Ensuite, il y a le football, je suis désolé, mais le football c'est pas de l'athlétisme, c'est un sport à part. Ou alors je veux bien qu'on me dise
que je dope pas dans le football.
Ah mais moi je veux bien que les footballeurs russes se dopent, mais après moi je veux voir les autres aussi. Donc faut arrêter cette sanction qu'on a étendue au football. Là ça dépasse un peu les limites. Là on va peut-être parler de volonté politique, parce que je ne vois pas la logique. En plus on va parvenir en plus sur l'imbécilité de les faire concourir en élimination.
Ensuite, en plus
si vous y allez, ce sera pas votre drapeau, ce sera pas votre maillot.
Mais moi j'y vais
non,
pas.
Non, on arrête. Sanctionner la Russie, oui, il y a eu dopage d'État organisé.
Il y a eu tromperie, il y a eu dopage, et il y a eu volonté de masquer.
Mais comment tu sanctionnes la Russie du coup ? Je comprends la complexité de sanctionner et de pas sanctionner.
Non, mais sur un sport et pas sur d'autres.
Non, mais là on parle de foot aujourd'hui. Donc
non, mais comment tu sanctionnes la Russie sans sanctionner les athlètes ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
D'accord. Bon, déjà On ne déborde pas sur le football, parce que je vois pas le rapport. On déborde pas sur le football. Ensuite, par rapport aux athlètes, deux choses. La première, il y a des athlètes propres, comme on l'a dit, et ils l'ont dit en plus. Oui. L'AMA et le CIO l'ont dit lors des dernières Olympiades. Il y a des athlètes propres. C'est pour ça qu'il
y en a qui pouvaient courir
avec sans drapeau et tout ça.
Donc ça, c'est
la deuxième chose qui est aussi importante. Si on sanctionne, on sanctionne aussi l'athlétisme américain qui, alors en matière de dopage,
il n'y a pas eu preuve, on n'a pas trouvé qu'il y avait
des démarches individuelles.
La question, c'est pas, on va pas, on faut sanctionner tout le monde.
Sanction.
Eux, ils ont fauté, il faut les sanctionner.
Et à partir du moment où il y a un dopage d'État, il peut toucher aussi le foot. Il n'y a pas à faire de différence entre les sports.
Ce qui est très étrange, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir sans doute, et surtout si cela se produisait, c'est que cette équipe de Russie pourra disputer l'Euro, voire être championne d'Europe, mais par contre ne pourra pas être sacrée championne du monde. Alors qu'elle peut être sacrée championne d'Europe au niveau continental, en dépit des sanctions. C'est ça qui est un peu bizarre, mais de toute façon, ça sera éclairci par la FIFA, théoriquement, ces prochains mois.
Oui, bien sûr.
Et puis on peut faire confiance pour la FIFA.
C'est la fin de ce Radio Foot International. N'oubliez pas le rendez-vous donc de soirée Ligue des Champions. Merci à Marie-Amélie Motte et merci aussi à Thibaut Baduel. Et on vous dit à demain.
Priorité santé.